Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vraiment, mes bien chers frères, c'est le bazar. C'est le bazar, et on dirait que Saint-Luc se plaît à nous montrer que c'est le bazar, parce qu'il fait allusion, dans à peu près la moitié de ce passage que nous venons de lire, à une situation qui est une situation de division. Le pouvoir qui devait être uni en Israël sous la tête d'un seul roi, parce que telle avait été la volonté de Dieu, eh bien ce pauvre pouvoir se trouve dépecé et placé entre les mains de personnes toutes moins recommandables les unes que les autres, Ponce Pilate, Hérode, Philippe, Lysanias et d'autres personnages pas très sympathiques lorsqu'on consulte un livre d'histoire, ou même s'ils n'ont pas fait des exactions comme Hérode, au moins sont-ils des personnages assez panots. Quant à ce pauvre pouvoir religieux en Israël, il est partagé, violence faite à la volonté divine là encore, entre Anne et Caïphe, l'un ne voulant pas laisser le pouvoir à l'autre. Et évidemment nous avons là quelque chose de tout à fait emblématique de ce qui se passe chez l'être humain à chaque fois qu'il s'en tient à ses petits calculs, à chaque fois qu'il en reste à ses petites forces, c'est la division. C'est pas nouveau, c'est quelque chose qui remonte à l'histoire de nos tout premiers parents. Dès que l'homme et la femme ont cru qu'ils pourraient s'en tirer avec leurs petites forces, ces petits nigauds se sont divisés. Divisés avec leur Dieu, divisés entre eux, d'où les querelles hommes-femmes dont nous faisons aujourd'hui encore les frais. C'est pour ça que je suis très heureux de ne pas être marié, en étant prêtre. Et les divisions, bien sûr, entre les, au sein même des sociétés humaines, alors là, homme ou femme, peu importe, et divisions au sein même de lui-même. L'être humain est, selon un titre fameux d'un ouvrage de Marcel de Corte, divisé contre lui-même. Et ce que nous voyons poindre avec cette fête de Noël, ce que nous voyons poindre lorsque Jean-Baptiste, dans le désert, annonce que l'agneau de Dieu est sur le point de se manifester dans sa vie publique, c'est évidemment la restauration de l'unité de l'être humain. Voilà quelque chose qu'a permis l'incarnation, et l'incarnation seule. Dès sa conception, le Seigneur Jésus, s'unissant à la nature humaine dans sa divinité, dès cette conception dans le sein virginal de Marie, commence de restaurer cette unité perdue, bien sûr. Et il faudra qu'elle se manifeste dans la crèche, encore est-elle toute pâlotte, et comme une petite flamme qui vacille. On ne voit pas encore que ce petit enfant de la crèche de Bethléem puisse restaurer l'être humain, restaurer l'unité perdue avec son Dieu, l'unité au sein de lui-même et l'unité avec ses semblables. Ce n'est que petit à petit que se révélera vraiment sous le visage de ce petit enfant, puis de ce jeune homme, puis de cet homme fait, le véritable pasteur, celui qui prendra la tête du seul troupeau d'Israël et celui qui prendra la tête de l'ensemble du genre humain, puisqu'il le dit lui-même, j'ai encore d'autres brebis, d'autres bercailles dont il faut que je m'occupe. Il s'agit bien sûr de la totalité du genre humain. Mieux encore, le Seigneur Jésus est cette tête du corps qu'il a institué lui-même, qui est sorti de son cœur blessé de la croix, qu'est l'Église, bien sûr, le corps mystique à laquelle tout homme est appelé à participer. Au-delà des divisions de sexe, il n'y a plus ni homme ni femme, des divisions de race, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus non plus d'esclaves ni de maîtres. Voilà que Jésus vient restaurer l'unité de la race humaine, l'unité au sein de l'être humain et l'unité des hommes avec leur Dieu. Mais vous voyez que donc tout ne s'opère que dans le Seigneur Jésus. Cette unité que Jésus est venu instaurer sera telle d'ailleurs que dans le livre de l'Apocalypse, qui est un livre prophétique, qui reprend d'ailleurs les prophéties de l'Ancienne Alliance, on voit le loup et l'agneau qui sont ensemble et qui s'entendent fort bien. Vous voyez donc cette unité qui est absolument contre toutes les espérances, je veux dire bien au-delà, quand je dis contre toutes les espérances humaines. Mais avant que cette unité, après cette très longue introduction, que le Seigneur Jésus vient proposer à la race humaine ne puisse se faire, il est nécessaire qu'ait lieu une préparation. C'est bien le rôle du précurseur, Saint Jean-Baptiste, que de demander aux hommes, que d'exhorter les hommes à aplanir ce qui est raboteux, à rendre droit ce qui est courbe, à combler ce qui est lacunaire. Voilà cette espèce de plan de grands travaux que saint Jean-Baptiste est venu proposer avec sa voix aiguë. Je ne vous dresse pas le portrait de saint Jean-Baptiste, j'ai déjà fait plusieurs fois ici. Vous voyez de qui je parle, cette espèce d'être tout sec, avec les yeux ardents, etc. Bon, ce Jean-Baptiste qui mange des sauterelles au miel, eh bien, évidemment, frappe l'attention et il instaure, sous la poussée du Saint-Esprit, un baptême. Un baptême de pénitence, ce baptême de pénitence dont on parle dans l'évangile d'aujourd'hui. Ce baptême n'a pas d'efficacité sacramentelle, il faut être très clair, ceux qui ont fait du catéchisme le savent, ceux qui n'en ont pas fait ne le savent peut-être pas. Ce n'est pas un baptême sacramentel, c'est un rite qui est tout nouveau, tout beau, qui vient de sortir des mains du Saint-Esprit, si j'ose dire, et qui n'a rien à voir avec la loi mosaïque, avec tous les rites de l'Ancienne Alliance. C'est quelque chose de complètement excentrique. D'ailleurs, les pharisiens et une partie des membres du Sanhédrin trouvent ce rite tout à fait étrange et qualifient saint Jean-Baptiste parfois d'imposteur, tout simplement, puisque c'est ajouté à la loi intangible révélée par Dieu à Moïse que de faire ce baptême de pénitence. Pourquoi saint Jean-Baptiste promeut-il ce baptême de pénitence ? Parce qu'on est obligé de s'y laver, on entre tout entier dans le Jourdain, il est très signifiant. On entre dans le Jourdain comme on meurt, on s'ensevelit dans la mort, et on en ressort davantage purifié et vivant pour une vie nouvelle. D'autre part, saint Jean-Baptiste exhorte lui-même explicitement à la pénitence. Cette préparation a été voulue par Dieu pour que nous puissions, pour que l'humanité d'alors, les juifs notamment en premier lieu, puissent recevoir dignement celui qui allait restaurer l'unité. Je veux dire, pas d'unité opérée par le Seigneur Jésus, sans une préparation par la pénitence et par un rite qui s'apparente au baptême. Les années ont passé, la page de l'Ancienne Alliance s'est tournée, puisque ce baptême de pénitence appartenait à l'Ancienne Alliance. La page de l'Ancienne Alliance s'est tournée, saint Jean-Baptiste l'a fermée pour nous, et le Seigneur Jésus a instauré une nouvelle économie, qui n'est pas seulement une économie, j'allais dire, psychologique, parce que c'était le cas du baptême de pénitence. Il ne conférait pas la grâce, il excitait l'intelligence et le cœur humain à accueillir Jésus-Christ venu restaurer l'unité. Encore une fois, il ne conférait rien de plus qu'une inclination de l'intelligence et du cœur à recevoir Jésus-Christ, c'est tout. Mais nous entrons désormais dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, avec ce qu'on appelle l'économie sacramentelle. Et là, pour le coup, les sacrements sont efficaces. Que se passe-t-il ? Jésus-Christ est toujours au milieu de ses peuples, aujourd'hui encore, 2000 ans plus tard, pour permettre l'unité. C'est-à-dire restaurer l'unité en nous-mêmes, entre notre âme et notre corps notamment. Nous avons tous quelque chose de psy, quelque chose de schizophrène. Nous sommes, c'est ce que dit saint Paul, poussés à faire le mal que nous ne voulons pas, et nous ne parvenons pas à faire le bien que nous voudrions. Vous voyez que cette violence qui est faite à notre nature par le péché, en nous-mêmes, en chacune de nos personnes, ces violences qui existent dans nos familles, parfois dans les couples, parfois entre parents et enfants, parfois dans les sociétés, parfois entre sociétés. Voilà que le Seigneur Jésus, qui est toujours présent au milieu de nous, comment ? Dans le Saint-Sacrement de l'autel, le Seigneur Jésus permet cette unité. Il est un vecteur d'unité. Le pape Benoît XVI, de glorieuse mémoire, nous disait que le Saint-Sacrement présent à l'autel était l'équivalent d'une bombe atomique. Mais qu'elle faisait, cette bombe atomique, l'effet inverse d'une vraie bombe atomique, c'est-à-dire qu'elle produisait non pas la dissolution de toute chose, elle n'éradiquait pas les choses, elle n'anéantissait pas, mais au contraire, elle procurait l'unité. Le fruit de l'Eucharistie, vous le savez sans doute si vous avez fait du catéchisme, vous ne le savez pas si vous ne l'avez pas fait, le fruit de l'Eucharistie essentiel, c'est l'unité. L'unité du corps mystique. Eh bien, de même que Jésus, autrefois, venu apporter l'unité, devait avoir un précurseur, saint Jean-Baptiste, devait nous introduire à la pénitence, devait introduire ses contemporains à la pénitence et à une sorte de baptême, de même aujourd'hui, pour que nous puissions jouir de l'unité que notre Seigneur, présent au milieu de nous, se propose de faire, et notamment pendant la nuit de Noël, où nous aurons une particulière considération de cette unité qu'est venu apporter l'enfant Jésus, il nous faut passer par une préparation. Ce sont des choses très simples que je vous rappelle là. Quelle est cette préparation qui permet d'être disposé? Quels sont ces grands travaux que nous devons entreprendre à l'image de ce qui était proposé par le Baptiste, mais cette fois-ci de manière efficace, sacramentelle? Deux choses, la pénitence et l'oraison. Le sacrement de pénitence et l'oraison. Le baptême, nous l'avons déjà reçu. Voilà, nous avons déjà été régénérés et a été extirpé de nous le péché originel. Il ne reste plus que des effets du péché originel, mais la racine du péché originel a été arrachée de nos cœurs, n'en déplaise à Satan, et pour l'éternité. Même si nous sommes de grands pécheurs, nous avons une aptitude, nous avons un droit au sacrement et nous avons une aptitude à faire le bien, dont est incapable l'être qui n'a pas reçu le baptême. Voilà donc que cette graine a été mise en nous, mais évidemment, il nous faut ensuite entretenir tout cela par le sacrement de pénitence qui vient combler ce qui doit être comblé, qui vient arracher ce qui doit l'être. Bref, une sorte de grands travaux comme Saint Jean-Baptiste le demandait et l'exigeait même. En réalité, il nous le proposait, mais il faut voir comment il le proposait. On n'avait pas trop le choix quand on était en face de Jean-Baptiste. Eh bien, désormais, c'est ce qu'il nous faut faire pour pouvoir accueillir correctement le Seigneur Jésus. Deux choses, la pénitence, le sacrement de pénitence, mes frères. Où en êtes-vous de la fréquentation de ce sacrement? Depuis combien de temps n'êtes-vous pas allé voir un prêtre pour en obtenir l'absolution? Avez-vous des péchés graves sur la conscience? N'attendez pas. Allez donc vous confier à la miséricorde de Dieu, sinon vous ne jouirez pas des fruits de Noël notamment, mais même plus largement des fruits de la Sainte Eucharistie et de cette capacité qu'elle a à promouvoir l'unité dans votre être et à l'extérieur, dans les familles. Si tout va si mal, mes frères, c'est que sans doute nous nous approchons indignement de l'autel. Sans doute il y a des péchés cachés, il y a des péchés que nous ne voulons pas tout à fait. Nous devons tout mettre au clair et peut-être faire une sorte de confession générale cette année, pourquoi pas, avant de recevoir l'Eucharistie pendant la nuit de Noël. Et puis il y a également cette deuxième activité à laquelle nous pensons moins, qui est l'oraison. Ne pourrons pas, mes frères, faire l'économie de la prière si nous voulons jouir pleinement de l'Eucharistie et pleinement de cette présence du Seigneur au milieu de nous. Ce n'est pas possible. Sainte Thérèse d'Avila disait qu'une âme qui prie un quart d'heure par jour ne peut pas se damner. Et évidemment, c'était le strict minimum, comme l'Église promeut la communion pascale et la confession pascale au minimum. Il est évident que Sainte Thérèse d'Avila n'était pas là seulement pour nous faire éviter l'enfer, mais également parce qu'elle est docteur de spiritualité, elle était là pour nous montrer le chemin du ciel, et le ciel rapidement après notre mort. Et que disait-elle? Elle disait, mes frères, il vous faut faire oraison, et faire oraison tout le temps, prier sans cesse, comme Jean-Baptiste devait le faire. On le voit toujours au désert, il est loin de tout, il est consacré entièrement à son Dieu. C'est un homme de prière depuis le sein de sa mère. Il est en extase dans le sein de sa mère lorsqu'il voit son Sauveur arriver à lui. Nous devons nous persuader que sans le sacrement de la pénitence et reçu fréquemment, sans l'oraison, nous n'arriverons à rien. Et je termine en vous disant que, selon Sainte Thérèse d'Avila, encore une fois, le docteur de la spiritualité, elle a un enseignement pour chacun d'entre nous, pas seulement pour ces carmélites du XVIe siècle, mais l'Église a estimé qu'elle avait un enseignement universel. C'est une condition pour qu'on puisse faire d'un saint un docteur, que son enseignement ait une portée universelle. Sainte Thérèse d'Avila est l'enseignante par excellence de l'oraison, avec Saint Jean de la Croix, son confesseur et ami. Eh bien, Sainte Thérèse d'Avila insiste, lorsqu'elle nous parle d'oraison, elle nous dit « Vous ne pourrez pas aller au ciel sans oraison, et pour faire oraison, votre oraison ne sera fructueuse que si vous êtes en état de grâce. » C'est QFD, il faut toujours passer par le sacrement de pénitence. Sacrement de pénitence, oraison, alors vous serez disposé à recevoir le Seigneur Jésus et les fruits de sa présence, c'est-à-dire l'unité. Enfin, vous serez restaurés, nous serons, je parle pour vous comme pour moi bien sûr, nous serons restaurés et en nous, et dans nos familles, et dans nos nations. Je crois que tel est le plan de travail que le Seigneur ne cesse de nous ressasser, de nous rebâcher, par la voix de Saint Jean-Baptiste notamment, à deux jours de Noël. Je pense que nous pouvons méditer un peu là-dessus et nous secouer pour enfin prendre les moyens de réaliser ce programme qui ne peut mener qu'au bonheur personnel, familial et national. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.